Bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins sont ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons aussi douce que trépidante, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Jean Danielou, Marianne Chassor, Antoine Ravon et Mathilde Wagman, à la lecture des premiers textes de l'année Georges Clès, à la réalisation de Nouveaux Départs, Olivier Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son 2014, Bruno Gagnère-Fontanille. À 10h47, ce sera l'heure des 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui vous donnera envie de lire Les Identités de Pierre Macheret, un excellent livre publié aux éditions de l'Incidence.
Pendant que régissent tous les plaisirs, je fais de la philosophie et mes pièces triomphent. J'écris la réponse des lettres que j'envoie à Lucilius. À ce correspondant muet, je donne la parole. De la curiosité servile que je lui prête, j'ai fait une machine à leçon d'ascétisme.
Dans le monde gréco-romain, la philosophie était une affaire de secte. Un philosophe ne s'intéressait pas à la philosophie en général, mais était platonicien, pythagoricien, épicurien, ou comme Sénèque, stoïcien. La vraie manière d'être philosophe était de vivre la doctrine de sa secte, d'y conformer sa conduite, voire son vêtement, éventuellement de mourir pour elle. Et de fait, c'est à l'âge de 64 ans, en l'année 65 de notre ère, que Sénèque s'est donné la mort, sur l'ordre de Néron, dont il avait été le précepteur. Rien de plus paradoxal a priori que de se donner la mort après avoir écrit « La brièveté de la vie », texte qui enseigne que nous n'avons pas reçu une vie brève, mais que nous nous la sommes faite. Pour l'auteur aussi de « La tranquillité de l'âme », qui rappelle que celle-ci est à la portée de l'homme sous réserve d'appliquer la bonne méthode. Et pour le rédacteur enfin des lettres à Lucilius, qui nous convainc de ne pas redouter la mort, puisque celle-ci ne dépend pas de nous. Rien de plus cohérent pourtant. Car la lecture bien comprise de ces textes donne au bonheur et à la tranquillité un sens qui dépasse le simple sentiment pour devenir, selon les mots de Paul Venn, une méthode d'auto-transfiguration. Alors quelle est cette méthode qui, bien plus qu'une recette, est un véritable art de vivre? Quel lien entre Sénèque et le stoïcisme? Et comment s'assurer de suivre le chemin de la sagesse? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers la lecture cette semaine de 4 textes du philosophe. Demain, Valérie Laurent viendra nous présenter « De la vie heureuse ». Mercredi, Juliette Drosse nous dévoilera « La tranquillité de l'âme ». Et jeudi, c'est Emmanuel Naya qui expliquera « La brièveté de la vie ». Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Laguenère, maître de conférence à l'Université Paul Valéry à Montpellier, pour nous guider dans la lecture de ce texte merveilleux que sont les lettres à Lucilius. Bonjour Jérôme Laguenère.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Nous allons donc commencer cette semaine sur Sénèque ensemble. C'est à vous que l'on doit l'excellente édition, et très belle aussi, une anthologie des lettres à Lucilius que vous avez intitulée « Sur le chemin de la sagesse » qu'on trouve aux éditions du Rocher. Alors dans le texte que Paul Venn, que j'ai cité, consacre à Sénèque, Paul Venn conseille au lecteur d'entrer dans l'œuvre de Sénèque par les lettres à Lucilius. Pour deux raisons, dit-il. La première, c'est la modernité du style qui rend ce texte très accessible à un lecteur contemporain. Et la seconde se trouve dans le fait que ces lettres exposent la philosophie du stoïcien, disons, à partir du moi, le moi qui devient la seule chose qui compte. Alors de quel moi s'agit-il dans ces lettres, puisque c'est des lettres où Sénèque écrit à son disciple Lucilius?
Donc la question du moi est effectivement centrale chez Sénèque. Donc les lettres à Lucilius peuvent se lire comme une quête vers le moi, vers l'intégrité du moi. Donc, en effet, on est là au cœur de la pratique philosophique antique, de la pratique stoïcienne. Il faut lire vraiment ce texte comme une direction de conscience. Donc, effectivement, donc Sénèque donc écrit à Lucilius, qui est un ami. Donc, le lien de l'amitié est central dans cette relation. Donc Lucilius, c'est un ancien épicurien, donc qui s'intéresse au stoïcisme. Donc il est alors au moment de cette correspondance, qui commence en 62. Donc on est vraiment à la fin de la vie de Sénèque. Sénèque a quitté le pouvoir, a quitté l'entourage de Néron, donc pour se consacrer donc à l'otium philosophique.
C'est-à-dire au loisir, au travail philosophique, voilà. Et non pas au travail professionnel.
Voilà. Donc, et durant cette correspondance, Sénèque va progressivement essayer d'amener Lucilius à la sagesse stoïcienne, à se déprendre de tous les biens non nécessaires, tous les biens factifs. Et notamment, donc, on a toute une progression. Donc, dans les 30 premières lettres, donc, on s'adapte à Lucilius avec des citations d'Épicure qui terminent les lettres, avec des lettres très courtes. Ensuite, on a, pendant les 30, à peu près à la lettre 80, des lettres beaucoup plus longues, avec des résumés du stoïcisme qui part toujours de faits concrets, d'expériences concrètes, par exemple un mal de mer, l'angoisse sous un tunnel. Donc on est vraiment dans des expériences de vie qui font le lien avec le dogme stoïcien. Et ensuite, dans un troisième temps, donc on a un enseignement beaucoup plus formel, avec de longues lettres qui en fait sont des discussions philosophiques, donc sur des points centraux du dogme, mais également Sénèque envoie à Lucilius des ouvrages très spécifiques, les questions naturelles sur la physique stoïcienne, le De Providentia sur la question du destin, également un ouvrage perdu, la philosophie morale. Donc on voit qu'on a un enseignement progressif. Donc on va amener donc ce Lucilius, donc qui est un proficiens, quelqu'un qui est là, je traduirais par un apprenti en sagesse, donc du début, donc de la première conversion vers le stoïcisme, à une connaissance plus précise de ce qu'est le stoïcisme, et cela à travers différents exercices spirituels. Donc, et c'est en cela qu'on voit bien qu'on est dans une auto-transformation. Donc, on voit bien que le travail va être progressif. C'est vraiment un travail de soi, une culture de soi, pour prendre le terme de Foucault. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail de soi, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement Sénèque va apporter à Lucilius, mais Sénèque lui-même dit qu'il n'est pas sage.
C'est pour ça que je vous posais la question du mois en début d'émission, savoir de quel mois s'agit-il ici véritablement, puisque dans la relation de transmission qui a lieu entre Sénèque et Lucilius, certes Sénèque donne des conseils à Lucilius, l'encourage, le réprimande, mais il met lui-même son propre moi au grand jour, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il se considère lui-même comme étant faible et comme ayant encore du chemin à parcourir pour aller jusqu'à la sagesse.
Ah, tout à fait. Donc Sénèque ne dit jamais qu'il est sage. Justement, pour le stoïcisme, il n'y a qu'un sage tous les 500 ans, selon la formule. Donc pour Sénèque se décrit juste comme un proficiens, éventuellement un peu plus avancé que Lucilius, mais c'est tout. Alors, et d'ailleurs, lui-même, Sénèque, alors qu'il écrit ses lettres, il va suivre des cours du stoïcien Métronax, dont on ne sait rien d'autre d'ailleurs, mais également il y a des échanges de livres. Par exemple, donc, c'est dans les lettres 45-46, on voit que Sénèque envoie un livre à Lucilius, mais Lucilius envoie aussi un livre qu'il a écrit à Sénèque. Donc on est là, dans cette direction de conscience, alors, dans un service mutuel. Donc on est vraiment dans une intersubjectivité totale. Donc, et c'est seulement ce qui fait le prix de cette correspondance.
Lucilius, salut. Fais-le, mon cher Lucilius. Revendique tes droits de propriété sur toi-même. Et le temps que jusqu'à présent on t'arrachait, qu'on te dérobait ou qui t'échappait, recueille-le et conserve-le. Persuade-toi qu'il en est comme je l'écris. Certains moments nous sont arrachés, d'autres nous sont soustraits, d'autres enfin s'évanouissent. Cependant, la plus honteuse des pertes est celle qui se produit par négligence. Et si tu veux y faire attention, une grande partie de la vie nous est enlevée à mal agir, la plus grande partie à ne rien faire, et toute notre vie à agir autrement qu'il ne faut. Me citeras-tu un homme capable d'accorder quelques prix au temps, de donner de la valeur au jour et de comprendre qu'il meurt chaque jour? C'est là notre erreur. Nous voyons la mort devant nous, en grande partie elle est déjà passée, et toute la partie de notre vie qui est derrière nous appartient à la mort. Fais donc, mon cher Lucilius, ce que tu fais d'après ta lettre. Embrasse toutes les heures. De la sorte, il arrivera que tu dépendras moins du lendemain quand tu auras mis la main sur l'aujourd'hui. Pendant que l'on diffère de la vie s'écoule. Jérôme Laguenère, je viens de lire le début de la première lettre, des lettres à Lucilius, qui commence comme la plupart des autres lettres, il y en a 124, je crois, un certain nombre, par cette injonction « fais-le, mon cher Lucilius », et toutes les lettres se terminent par « porte-toi bien ». On voit ici un intérêt proprement pratique à ces lettres. Il ne s'agit pas simplement de faire court sur, disons, le stoïcisme, mais de transmettre une pensée, mais véritablement une manière de vivre, une manière de se rapporter à soi, qui, dans cette lettre, comme dans beaucoup d'autres, prend une forme très précise, cette manière, est celle d'essayer de se défaire des maux du monde et de se recentrer sur notre volonté, sur le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes, ce qui, nous dit Sénèque, est le meilleur moyen de dissiper toute crainte au sujet de notre propre mort.
Effectivement. Donc, dans les lettres, l'impératif est quelque chose de fondamental. En effet, tout le travail de la direction de conscience, c'est de faire en sorte que l'élève, donc, qui part d'une bona voluntas, d'une bonne volonté, d'une impetus, donc d'un élan, hein, arrive à un état, hein, diathetis en grec, à une bona mens. Et donc tout le travail du directeur de conscience, ça va être par ses encouragements, voire par ses réprimandes, à essayer de diriger réellement son élève afin de maintenir cette tension interne vers le bien, vers la vertu. Car justement, là il faut faire un détour par la psychologie stoïcienne. Pour un stoïcien, l'âme est en fait un souffle igné. C'est dans un pneuma. Hein. Les stoïciens distinguent ainsi plusieurs états de l'âme, à savoir, il y a un état d'atonie et un état d'eutonie. Pour faire prendre une image, on peut prendre l'image d'un pneu. Lorsqu'un pneu est mal gonflé, il roule mal. Un pneu bien gonflé, il roule. Voilà. Et justement, c'est ça le but du directeur de conscience, faire en sorte que l'âme soit bien gonflée, si j'ose dire, afin que le proficiens, l'apprenti en sagesse, puisse poursuivre sur le chemin de la sagesse.
Alors comment doit-il s'y prendre justement pour poursuivre ce chemin de la sagesse? Est-ce une manière de méditer sur ce que son maître lui enseigne ou est-ce une manière de mettre en œuvre ce qu'on lui apprend? C'est-à-dire quelle part doit-il accorder à la théorie et quelle part doit-il accorder à la pratique?
L'enseignement stoïcien justement repose sur les deux. Hein. Il y a les praecepta, les préceptes pratiques et les dogmata, les préceptes théoriques, les principes théoriques. Et justement, le but du stoïcisme, c'est de joindre les deux. Les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que le proficiens, l'apprenti en sagesse, devra mettre en pratique, devra faire des exercices pratiques. Exercices d'examen de conscience, de méditation, voire même des exercices ascétiques. Passer quelques jours à vivre de manière un peu pauvre, par exemple. Et en même temps, le stoïcisme est un intellectualisme. C'est-à-dire que le but, c'est réellement de faire correspondre le logos, la raison de l'individu, avec le logos universel. Et donc, pour cela, il faut impérativement avoir une maîtrise totale du système stoïcien. Et donc, justement, tout le but de Sénèque, ça va être de faire en sorte que Lucilius pratique des exercices et en même temps arrive à une compréhension globale de ce qu'est le dogme stoïcien, à faire correspondre son logos individuel avec le logos universel.
Mais ce qui pose quand même la question de la place du moi dans cet univers, puisque j'ai dit en début d'émission que l'intérêt de ces textes, enfin selon Paul Venn, était de présenter le stoïcisme à partir du moi. Or, si le dogme stoïcien propose un moi qui s'insère dans un moi, disons dans l'univers lui-même, alors quel sens y a-t-il à parler encore de moi si le but pour l'homme est d'essayer de coïncider avec l'ordre de l'univers, avec la nature?
Donc, effectivement, la question du moi est une question très complexe. Quand on parle du stoïcisme, le moi, dans l'ancien stoïcisme, n'est pas une notion forcément très pertinente. En revanche, on voit chez Sénèque un effort pour penser le concept de volonté. Donc c'est un concept qui apparaît très souvent. Donc notamment, il rappelle tout le temps la notion de bonne volonté, de vouloir de toute sa volonté. C'est-à-dire que Sénèque insiste sur l'importance de, comment dire, l'intentionnalité, donc l'intentionnalité du jeu dans le processus de transformation. Ce qui est, on n'a bien sûr pas le moi tel qu'on le connaît, le moi post-cartésien, mais on voit là l'apparition d'un soi, au moins, d'un soi qui est au centre de la pratique stoïcienne.
Par la volonté. C'est dans l'acte de volonté qu'il y a une forme d'individuation, enfin, je ne sais pas si on va parler en ces termes, mais qui fait qu'un sujet peut exister indépendamment de... Enfin, pas indépendamment, mais à côté du monde ou au sein du monde. C'est
voilà,
ça.
Tout à fait.
Et donc, cette pensée du moi et de la volonté va être fondamentale pour les stoïciens, puisque c'est à partir de cela que va pouvoir avoir lieu tout le travail sur soi. Pour que travail il y ait, pour que transfiguration il puisse y avoir, il faut qu'il y ait un point de départ à une volonté qui va pouvoir changer les choses. Ça, il faut le dire clairement, c'est-à-dire changer non pas le monde, mais se changer soi, avec cette distinction qui est fondamentale chez les stoïciens et que Sénèque reprend, entre ce qui relève de moi et ce qui appartient à un ordre extérieur. On retrouve ici une coupure très nette entre une forme d'intérieur et l'extérieur.
Effectivement, et d'ailleurs, c'est ce que Sénèque met en évidence dès cette première lettre. Donc, toute cette première lettre sur le temps repose en fait sur cette distinction entre ce qui dépend de nous, donc en grec ta éphémine, et ce qui ne dépend pas de nous, ta ouk éphémine. En effet, il nous présente le temps comme un bien, hein, avec toute une métaphore juridique. Revendique la vindicatio, c'est un terme juridique. Met la main sur le temps, on a encore une expression juridique. Il emploie aussi le terme de possessio, qui est un terme juridique. Le bien, le temps est un bien, hein, et c'est le seul bien qui est à nous. Hein. Il est très bien, il parle de bonum nostrum. Il oppose cela à bonum alienum, le bien d'autrui, le bien étranger. Donc là, on a totalement la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui est dans les mains de la fortune. Donc justement, la fortune qui est le grand personnage des lettres à Lucilius. Donc, ce qui ne dépend pas de nous, par définition, comme on n'a aucune maîtrise là-dessus, ce sont des indifférents. Alors que ce qui dépend de nous, c'est là que va se jouer la distinction entre le bien et le mal, on dirait. Parce que forcément, en fonction de nos choix, on aura un jugement axiologique.
On supporte moins aisément la passion que la maladie, dont la cause est sans doute en ceci, que notre passion nous paraît résulter entièrement de notre caractère et de nos idées, mais porte avec cela les signes d'une nécessité invincible. Quand une blessure physique nous fait souffrir, nous y reconnaissons la marque de la nécessité qui nous entoure, et tout est bien en nous sauf la souffrance. Lorsqu'un objet présent par son aspect ou par le bruit qu'il fait ou par son odeur provoque en nous de vifs mouvements de peur ou de désir, nous pouvons encore bien accuser les choses et les fuir afin de nous remettre en équilibre. Mais pour la passion, nous n'avons aucune espérance. Car si j'aime ou si je hais, il n'est pas nécessaire que l'objet soit devant mes yeux. Je l'imagine et même je le change par un travail intérieur qui est comme une poésie. Quand le passionné s'est assuré qu'il n'est pas malade et que rien ne l'empêche pour l'instant de vivre bien, il en vient à cette réflexion : ma passion, c'est moi, et c'est plus fort que moi. Je crois que c'est la force des passions et l'esclavage intérieur qui ont conduit les hommes à l'idée d'un pouvoir occulte et d'un mauvais sort jeté par un mot ou par un regard. Faute de pouvoir se juger malade, le passionné se juge maudit. Et cette idée lui fournit des développements sans fin pour se torturer lui-même. Qui rendra compte de ces vives souffrances qui ne sont nulle part ? Et la perspective d'un supplice sans fin et qui s'aggrave même de minute en minute fait qu'il court à la mort avec joie.
Jérôme Lagonnaire, le texte que nous venons d'entendre, interprété par le comédien Georges Clès, n'était pas de Sénèque, mais d'Alain. Le philosophe Alain, dans ses propos sur le bonheur, où lui-même met en œuvre la distinction très stoïcienne entre ce qui est hors de nous et ce qui est en nous. On supporte moins aisément la passion que la maladie, dit-il, puisque la passion est à l'intérieur de nous. Ce qui montre ici, peut-être, ce texte nous permet de penser, la faiblesse, la difficulté pour l'homme d'atteindre ce contrôle de soi que prônent Sénèque et les stoïciens, puisque la passion venant de nous nous rend impuissants et semble venir corrompre notre volonté. Et c'est peut-être ici, dans les lectures plus contemporaines de Sénèque, que nous pouvons mesurer la difficulté et du coup en tirer la conclusion de la faiblesse humaine de cet homme qui essaye de suivre le chemin de la sagesse et qui n'y arrive pas.
Effectivement, ce texte d'Alain est un texte totalement stoïcien, même sénéquien. On peut trouver un texte très proche chez Sénèque dans le livre 2 du De Ira, qui permet d'éclairer également la psychologie qui est sendue dans la lettre à Lucilius.
Sur la colère, donc.
Sur la colère. Donc, où effectivement, Sénèque reprend cette distinction entre l'émotion et la passion. Donc, l'émotion, ça va être le premier sentiment, hein. Par exemple, si je vous effraie, vous allez avoir peur, vous allez sursauter de peur. Ça, c'est l'émotion. Donc, Sénèque parle de motus. Mais la passion, ça va impliquer que l'on va donner son assentiment, qu'on va repenser à ce phénomène, qu'on va y repenser, l'imaginer, le transformer. On passe en fait de la fantasia, la représentation mémorielle, au fantasma, la représentation modifiée par la pensée. Et c'est ça là la passion. Donc, parce que dans la psychologie stoïcienne, la passion est au cœur de ce qu'on appelle l'egomonikon, le principale, la partie rétrice de l'âme. C'est-à-dire que soit on a la raison, soit on a la passion. Et l'une chasse l'autre. C'est justement cela. Donc, alors que l'émotion, ça fait partie de notre nature animale, on va dire. Et justement, la passion, c'est un mouvement de la pensée. Et c'est en cela donc, qu'un homme passionné n'a plus de raison. Et pour transformer l'homme passionné en homme raisonnable, dirons-nous, justement, il y a tout le travail de direction de conscience. Justement, donc, un homme passionné, donc, ça c'est, on peut remonter à Chrysippe, son traité le Thérapeutikos, ou après avoir étudié les différentes passions...
L'un des fondateurs du stoïcisme.
Voilà, l'un des fondateurs du stoïcisme. Donc, ou après avoir expliqué différentes passions, le fonctionnement des passions, il donne des conseils pour justement faire en sorte que la philosophie soit une thérapeutique. Et cette thérapeutique, c'est de dire qu'un homme passionné, on ne ramènera pas directement à la raison en lui énumérant des dogmes, en lui énumérant des principes rationnels. Mais qu'il faut des petits exercices pratiques, utiliser des propos, une rhétorique qui pourra le toucher. Donc c'est tout cela le travail de direction de conscience. Amener l'homme passionné à se convertir, à se retourner pour aller sur le chemin de la sagesse.
Voilà. Alors cette distinction entre ce qui est hors de nous et ce qui est en nous, donc là Alain prenait l'exemple de la passion et de la maladie, on peut aussi la penser à travers la question du temps, puisque nous l'avons rapidement abordé juste avant, à partir de la lettre 1 de la lettre à Lucilius, vous avez dit le temps dépend de nous. Enfin, c'est ce que dit Sénèque, le temps dépend de nous, il faut comprendre que le temps peut dépendre de nous, parce que du coup ça nous rend beaucoup plus libres par rapport à notre conception de notre existence et notre rapport à notre propre vie humaine. Ça, c'est assez surprenant parce que le temps, a priori, justement, on dirait que c'est ce qui ne dépend pas de nous. Le temps s'échappe, le temps s'écoule, nous conduit vers une mort contre laquelle nous ne pouvons rien. Alors comment comprendre que Sénèque identifie le temps à ce qui dépend de nous et non pas à ce qui est hors de nous ?
Justement, dans ce texte, il y a une distinction entre le regard des stulti, des idiots, des sots, c'est-à-dire la foule, qui justement considère que le temps n'est pas un bien, que le temps s'écoule. Alors que pour le stoïcien, le temps est l'un des rares éléments en ce qui se dépend de lui. Parce que le temps, c'est en fait ce que je fais du temps. C'est lorsque je suis maître de mon temps, lorsque je décide d'employer ce temps au perfectionnement intérieur.
C'est ce qu'il dit dans la brièveté de la vie. Oui. La vie n'est pas brève par essence, c'est nous qui la rendons brève.
Tout à fait. Donc, à partir du moment où on perd son temps dans les affaires publiques, dans les passions, dans les ambitions, etc., etc., forcément, on n'est plus maître de son temps. Le temps dépend des autres, dépend de la fortune. En revanche, lorsqu'on se concentre sur le présent, l'importance, il y a le stoïcisme peut être vraiment compris à travers cette importance de l'attention, en grec la prosoké. Et d'ailleurs, très souvent, Sénèque a cet impératif, fais attention. Et en latin, c'est vraiment fixe ton attention sur ce moment présent. Et justement, par cet effet fort de concentration sur le moment présent, ce temps devient à soi. On est vraiment, à partir du moment où on ne dépend plus du passé ou du futur, mais que le moment présent est pleinement à soi, le temps devient un bien qu'on peut maîtriser.
Dans le meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas.
Ce qui demande quand même, du coup, la mise en œuvre d'une certaine forme de méthode que l'on peut trouver au sein du stoïcisme, mais aussi un changement de conception que l'on se fait de sa propre mort, puisque Sénèque va jusqu'à dire, notamment dans l'Lettre à Lucilius, que dans certaines circonstances, il est plus cohérent avec soi de se donner la mort que de la recevoir. Ce qui là aussi peut sembler paradoxal. On sait que Sénèque lui-même a dû se donner la mort, se rendre de Néron, dont il avait été le précepteur. Et suite à un retournement politique, il a été contraint de mettre fin à ses jours. Mais il avait écrit auparavant, les lettres à Lucilius sont écrites peu de temps avant sa mort, que le suicide était dans certains cas un acte, pour le coup, proprement cohérent et donc quelque chose qui pouvait nous conduire plus au bonheur que l'inverse, en fait. Tout simplement parce que nous décidons de notre propre mort, elle ne nous est pas imposée de l'extérieur. C'est quand même assez paradoxal comme pensée.
La question du suicide, donc, une question assez complexe dans le stoïcisme. Le suicide, donc, doit être compris déjà comme une possibilité. À savoir, ça entre dans une pensée de la mort. Une pensée de la mort qui doit justement permettre au sujet qui est sur le chemin de la sagesse, qui doit lui permettre justement de profiter de l'instant présent. Ensuite, donc, il y a des conditions, on va dire, poétiques, qui expliquent l'importance du suicide, notamment à cette période, sous l'Empire. Donc le suicide va être souvent un acte politique. Donc Néron se suicide, mais on a d'autres suicides célèbres, donc Caton, d'Utique, face à après la victoire de César, également peu de temps après Sénèque, un sénateur stoïcien de Thrasea. Donc c'est vraiment un moyen d'affirmer sa liberté contre le pouvoir tyrannique. Mais fondamentalement, qu'est-ce que le suicide pour un stoïcien? C'est une manière de prendre conscience, alors, parce que le stoïcisme c'est ça, c'est prendre conscience qu'on est arrivé à un moment où le suicide est le meilleur moyen de faire coïncider son logos intérieur avec le logos universel. Voilà. Donc c'est le suicide ne doit pas être confondu, on le voit, avec le suicide du passionné. Le suicide stoïcien, c'est un suicide, on va dire, fait en toute raison.
640, là, visite confirmée, une forte dette.
Je demande du renfort.
Tout ça, c'est ma faute, je le sais. Mais enfin, merde, tu devrais bien savoir maintenant que c'est pas ta faute. Louise, même si ça tourne mal, ça a été super d'être avec toi. Merde. Oh mon Dieu. sont toute une armée.
C'est que pour nous, ça?
Hé, hey, les laisse pas flinguer ces filles. J'arrive pas, des gars, ils mettent en joue des femmes.
Des femmes qui sont armées, ils ont des consignes, alors calme-toi, le commando sait ce qu'il fait.
Je baisse pas les bras.
Si c'est ça, écoute. On se laisse pas arrêter.
Explique, je te suis mal.
On n'a qu'à poursuivre.
À quoi tu penses?
Vas-y.
Tu es sûr?
Oui.
Tu ne peux sur ce sujet donner un avis général. Pour savoir si, quand une force extérieure ordonne de mourir, il faut la devancer ou l'attendre. Si une mort se déroule avec des tourments et une autre de manière simple et facile, pourquoi ne faudrait-il pas mettre la main sur la seconde? De même que je choisirais le navire sur lequel naviguer et la maison où habiter, de même je choisirais ma mort pour quitter la vie. Nulle part davantage que dans la mort, nous devons exécuter les volontés de l'âme. Qu'elle parte dès qu'elle a pris son élan. Elle recherche le fer, le lacet ou quelques poisons qui se répandent dans les veines. Qu'elle aille jusqu'au bout et rompe les chaînes de la servitude. Pour sa vie, on a des comptes à rendre aux autres. Pour soi-même, pour sa mort. La meilleure est celle qui nous plaît.
And I forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want, where to go. And I'll forget about your lies and deceit, and your attempts to be so discreet. Maybe today, yeah, I'll slip away. And you can keep your symbol.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h32, c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Sénèque. Et pour l'occasion, c'est des lettres à Lucilius dont nous parlons, en compagnie de Jérôme Laguenère, à qui l'on doit une édition des lettres à Lucilius, une anthologie de ses lettres, intitulée Sur le chemin de la sagesse, et que l'on trouve aux éditions du Rocher.
You've been down on me for too long, and for too long I just put you on. Now I'm tired of lying, and I'm sick of trying, 'cause I'm losing who I really am, and I'm not choosing to be like them.
Bien comprendre avec la question du suicide, Jérôme Laguenère, c'est que celui-ci n'est pas une fuite. Et au contraire, il est une manière de coïncider avec soi. On vient d'entendre un extrait de Thelma et Louise, la scène finale, où les deux filles qui sont en cavale depuis un moment, alors que les policiers les encerclent et qu'elles doivent se rendre, choisissent d'appuyer sur l'accélérateur de la voiture et donc de se tuer ensemble. On a ici la dimension de l'amitié que vous avez rapidement évoquée, qui est très importante chez Sénèque. Et la chanson de Sixto Rodriguez que nous sommes en train d'écouter, I'll Slip Away, le montre aussi. Il s'agit à la fois de s'évader, mais sans fuir ce qui s'impose à nous. C'est au contraire une manière de ressaisir et de coïncider pleinement avec ce que nous vivons.
Donc, effectivement, donc, le suicide chez Sénèque et dans le stoïcisme correspond en fait à un élément central de la psychologie et de la physique stoïcienne. En effet, l'âme stoïcienne, c'est un souffle igné qui est originaire du souffle qui a fondé le monde. Donc, en fait, la mort, c'est quoi? C'est l'âme, cette parcelle, donc le souffle divin, qui va rejoindre la parcelle universelle. Et en même temps, le suicide, ici, pardon, ce texte de Sénèque que vous avez lu, il ne faudrait pas croire que Sénèque fait une apologie du suicide.
Voilà.
Pas du tout, pas du tout. Il ne dit pas qu'il faut se suicider pour être heureux, non. Il dit, donc, ici, on est plutôt dans un exercice spirituel. L'important, c'est de toujours être maître de soi. Et pour être maître de soi, il faut toujours avoir quelque chose sous la main. C'est la notion de prokairon dans le stoïcisme. Et donc, pour cela, il faut faire un travail de méditation, de réflexion. C'est toute la question de la praemeditatio malorum futurorum, la méditation des mots à venir. À savoir qu'un stoïcien, donc, afin d'assurer son indépendance, son autonomie, sa maîtrise de soi, doit toujours imaginer ce qui pourrait lui arriver. En effet, la mort, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. N'importe, dans la lettre 4, on le voit, n'importe qui peut nous tuer. On peut se promener, il nous arrive un accident. Également, des êtres chers peuvent mourir. Donc, or, le stoïcien, pour ne pas se faire, pour ne pas être pris au dépourvu par cette mort, par ces morts, doit toujours se préparer.
Mais en même temps, il dit qu'il ne faut pas trop y penser, ça ne sert à rien d'être triste avant même que ça arrive.
Donc là, il faut faire la distinction entre la pratique stoïcienne et la pratique épicurienne. Donc pour le stoïcien, donc, il faut toujours avoir cette pensée de la mort. Pour un épicurien, donc, l'épicurien va se fonder sur un double processus d'avocatio, c'est-à-dire on ne pense pas à la mort, et de revocatio, on ne pense qu'au plaisir, qu'au bon moment. Pour le stoïcien, donc, c'est un peu différent. À savoir que penser la mort, ça ne veut pas dire être angoissé par la mort. Hein. Mais ça, c'est Michel Foucault qui l'analyse bien, c'est en quelque sorte obturer le futur. Voilà. Justement, en faisant en sorte que, en ayant ses pensées toutes faites, toutes prêtes, à disposition, on ne soit jamais surpris. Et qu'en fait, cette pensée du futur est en fait une concentration sur le moment présent. Donc, c'est-à-dire, donc, le but n'est pas d'être angoissé, c'est au contraire d'être libéré de toute crainte.
De substituer la compréhension à la crainte, en fait.
Totalement. Oui. Alors, voir que la mort est quelque chose de naturel. Voilà. Donc, que la mort arrive dans 5 minutes, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, c'est un phénomène naturel, il est normal de mourir.
Rien ne sert de s'en inquiéter, mais par contre, il faut le garder en tête pour pouvoir mieux se ressaisir de notre propre vie.
Totalement. Donc, alors, c'est vraiment cette pensée de la mort qu'il faut avoir, qui permet justement la concentration sur le présent, qui permet justement de ne plus être livré aux passions, à la crainte, qui est l'une des 4 passions du stoïcisme. Donc, on est là vraiment dans une pensée de la concentration du présent. Et on est là vraiment au cœur de la thérapeutique stoïcienne.
Alors vous l'avez dit, les lettres à Lucilius se composent, peuvent être distinguées en trois parties. Notamment dans certaines des lettres, on y trouve comme l'énoncé de certaines thèses stoïciennes qui sont énoncées de manière beaucoup plus théorique que les lettres qu'on a pu entendre jusqu'à présent et qui semblent donner à entendre presque un système de pensée, hein, c'est-à-dire vraiment des propos théorique qui présente une vision du monde et de la place de l'âme humaine au sein du monde. Et je vous propose d'entendre tout de suite un extrait, c'est la lettre 41 des lettres à Lucilius, dans laquelle on entend bien dans quelle mesure l'homme, dans la mesure où il arrive à se ressaisir lui-même, devient en quelque sorte un égal du Dieu. Écoutez.
Pourquoi ? Je suis trop épidermique, trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux.
Lis Sénèque.
Eh bien, tu vois, là, par exemple, tu me dis « lis Sénèque » et ça pourrait m'exaspérer.
Tu dis que tu manques de sagesse. Et moi, je te réponds « lis Sénèque ». Mais c'est odieux.
N'est-ce pas ?
Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, car je n'ai pas dit « lis Sénèque », mais « lis Sénèque ».
Tu fais la meilleure des choses et des plus salutaires pour toi si, comme tu l'écris, tu chemines avec persévérance vers la bonne pensée, qu'il est sot de souhaiter alors que tu peux l'obtenir par toi-même. Il ne faut pas lever les mains vers le ciel ni implorer un sacristain qu'il nous permette de poser l'oreille près de la statue comme si nous pouvions être bien mieux exaucés. Le Dieu se tient près de toi. Il est avec toi. Il est en toi. Oui, je te le dis, Lucilius. C'est un souffle sacré qui siège en nous, qui observe et garde nos maux et nos biens. Celui-ci, comme nous le traitons, nous traite lui-même. Personne n'est vraiment un homme de bien sans Dieu. Peut-on s'élever au-dessus de la fortune sans être aidé par lui ? Celui-ci nous donne des conseils élevés et pleins de grandeur. Dans n'importe quel parmi les hommes de bien habite Dieu. Quel Dieu, on ne sait. Si tu vois un homme qui n'est pas effrayé par des dangers, à l'abri des désirs, paisible au milieu des tempêtes de la vie, qui regarde les hommes d'un lieu en hauteur, les dieux d'un lieu égal, n'en viendras-tu pas à le vénérer ? Ne diras-tu pas « c'est la plus grande et la plus haute des choses » qu'on puisse le croire semblable à ce dernier qui réside dans ce petit corps ? C'est une force divine qui est descendue chez cet homme, une âme éminente qui se gouverne, qui traverse tous les événements comme s'ils étaient peu de choses, qui rit de tous nos objets de crainte et de souhait. C'est une puissance divine qui la meut.
La comparaison, ou l'assimilation même de l'homme à un dieu, Jérôme Laguenner, nous permet de penser quelque chose qui est fondamental pour saisir peut-être la teneur de ces lettres et de la pensée stoïcienne, à savoir que tout ce que nous venons de dire sur les exercices spirituels, le travail sur soi pour atteindre une forme de bonheur et de ressaisir sa propre vie, ne se situe pas uniquement dans le domaine de la psychologie, mais s'inscrit dans une métaphysique, dans une conception du monde qui a certains présupposés et qui dépasse largement le simple domaine du travail sur soi qu'on classerait aujourd'hui dans les rayons de psychologie en librairie. Il y a une vraie teneur philosophique et même métaphysique à cette pensée.
Métaphysique, peut-être pas.
C'est ce qu'affirme Paul Venn, en tout cas, c'est vrai.
Ah, peut-être pas, parce que justement, la pensée stoïcienne n'est pas une pensée de la transcendance, mais plutôt de l'immanence. Alors, c'est vrai que quand on voit le mot Dieu, on a tout de suite une représentation, on va dire, chrétienne. Et de fait, Sénèque va être beaucoup lu par les lecteurs chrétiens. D'ailleurs, on a des lettres assez étonnantes où Sénèque nous dit que le Dieu est descendu parmi les hommes. Donc c'est absolument étonnant. Et d'ailleurs, ce qui va justifier une correspondance apocryphe entre Sénèque et Paul, qui sont tous les deux contemporains. Or, il faut vraiment lire ce texte à l'aune des dogmes stoïciens. Et on se rend compte, en fait, on a ici une pensée immanente. Le Dieu est en nous. Ça signifie simplement que le souffle sacré qui a créé le monde, le pneuma originel, est en nous. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes une parcelle de ce feu divin. Voilà. Et que,
mais Dieu ici, c'est la nature.
Ah, Dieu, c'est la nature. Alors, pour le stoïcisme, la raison, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Et donc, vivre selon la nature, le grand conseil des stoïciens, c'est vivre selon Dieu, c'est vivre selon la raison. Donc on est réellement dans une pensée de l'immanence. Et en même temps, dans ce texte, c'est à la fois, on est dans le cœur du dogme stoïcien, et en même temps, le dogme est lui-même source d'exercice spirituel. En effet, donc on a un passage qui n'a pas été lu, à savoir qu'à partir de cette constatation du Dieu, on passe à l'observation de la nature, puis à l'observation de l'âme. En fait, on a ici un exercice spirituel, bien analysé par Pierre Hadot, à savoir que avoir connaissance de la physique stoïcienne, c'est en fait un exercice spirituel. Quand il dit qu'il y a du sacré à la fois donc, en soi, mais également si on observe la nature, les objets de la nature, les objets naturels, sont créés par le souffle igné, par ce souffle divin.
Mais c'est ça qui est difficile à penser. Ouais. Comment est-ce que peuvent être réconciliés ou conciliés d'un côté la pensée d'une immanence naturelle où chaque chose suit un ordre divin et de l'autre l'exercice d'une volonté qui va permettre de travailler sur soi?
C'est justement toute la complexité du stoïcisme. Alors, parce que ce qu'il faut voir aussi, on voit que Sénèque se réfère à la nature et après à l'âme. C'est-à-dire que observer la nature et observer l'âme, l'âme humaine, l'âme du sage, c'est un même exercice spirituel. L'observation de la physique ou de l'éthique conduit au même effet. Savoir que, et d'ailleurs on le voit dès le début du texte, avec l'évocation de la bonne pensée, de la bonne volonté. En fait, donc, je dirais ce qu'apporte Sénèque au stoïcisme, c'est vraiment cette insistance sur cette intentionnalité, donc un instinct de la pensée, un instinct de l'âme. Donc l'homme qui est toujours tendu vers ce bien, alors, donc ça montre bien que la pensée humaine, ce moi qui apparaît, même si ce n'est pas le moi post-cartésien, il est une source d'inspiration. Voir un sage, voir quelqu'un, un homme de bien, ça inspire, ça nous permet de progresser sur le chemin de la sagesse.
Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis.
Merci beaucoup Jérôme Lagonnaire d'être venu nous parler de Sénèque aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à l'anthologie des lettres à Lucilius que vous avez publiée aux éditions du Rocher. Vous l'avez intitulée « Sur le chemin de la sagesse ».
Et sa sœur en dentelle, un castillet tout neuf, un canicot, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Candides ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, s'étaient donnés si jeunes. Sur un vieux banc, j'étais.
Restez fidèles à ce qui dépend de nous, c'est le stoïcisme version Charles Trenet. Lisez les lettres à Lucilius, chers auditeurs, parce que c'est un trésor littéraire en plus d'être un petit bijou philosophique. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h47. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Bosna-Savoie qui vient nous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine et bonne année à vous.
Bonne année à vous aussi et bonne année à tous. Qui suis-je ? C'est à cette question classique de la philosophie que le grand philosophe Pierre Macheret s'attaque dans Identité, ouvrage paru aux éditions de l'Incidence. Qu'est-ce que le moi ? Qui est-ce ? Ou encore qui suis-je ? Autant de questions qui renvoient à un problème traité, surtraité même en philosophie, l'identité, et souvent laissé sans réponse. Et justement, toute l'originalité de l'ouvrage que j'ai entre les mains, Identité, Identité au pluriel, le dernier ouvrage du philosophe Pierre Macheret, grand spécialiste de Spinoza, c'est de reposer cette question sans prétendre y répondre. À partir d'un problème classique, il réussit donc, avec cet ouvrage très agréable à lire dans une édition très chic, à proposer une démarche originale, questionner l'identité personnelle sans y apporter une solution, la livrer dans toute son opacité, telle une énigme, à travers trois expériences banales. Trois expériences donc en trois textes qui nous montrent l'écart entre l'identité virtuelle et réelle à l'œuvre sur les sites de rencontres, entre l'autoportrait et le portrait à partir de l'expérience de Jean Genet, qui nous montrent enfin l'écart entre le jeu privé et le moi public qu'a expérimenté l'artiste Cindy Sherman. Ces trois textes sont donc trois manières, non pas de nous apprendre quelque chose sur le moi, mais de restituer les embarras de l'identité, pour reprendre l'expression du philosophe Vincent Descombes. L'identité personnelle, nous dit Pierre Macheret, n'est pas fixe, comme le laisse penser notre carte d'identité, mais elle n'est pas mouvante non plus. Élucider l'identité personnelle sonne donc comme un échec, mais c'est aussi toute sa puissance philosophique. De la même manière que l'on peut lire dans cet ouvrage que l'amour réside dans de petits commencements de mouvement, l'identité se constitue elle aussi, petit à petit, à force de commencements de mouvement. Lisez donc « Identité » de Pierre Macheret aux éditions de l'Incidence.
Merci beaucoup Géraldine, et oui on va le lire en effet, merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions consacrée à Sénèque. Demain je recevrai le philosophe Valéry Laurent qui viendra vous parler du texte de la vie heureuse. D'ici là, vivez heureux en effet. Réécoutez cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, et où vous pourrez surtout la réécouter et la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.